Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Le couple Philémon et Baucis est dans la mythologie grecque et latine le symbole du couple idéal, celui qui a vécu de l'adolescence à la vieillesse sans la moindre discorde. Peut-on comparer Zica et Joseph, personnages centraux du nouveau roman de Frédéric Martin, à ce couple mythique? Séparés contre leur gré, ils vont échanger de brûlantes et émouvantes lettres d'amour à travers lesquelles apparaît tout ce à quoi ils sont confrontés. Le grand âge, la perte d'autonomie, les problèmes de leurs enfants et les aléas d'une vie familiale pas aussi harmonieuse qu'on aurait pu le croire. Radioscopie d'un couple, d'une famille, d'une société, un roman poignant, grave, intitulé « Le vase où meurt cette verveine », édité chez Belfond. Et nous avons le plaisir de recevoir son auteur, Frédéric Martin. Frédéric Martin, bonjour.
Bonjour Monique.
Voilà, troisième roman, septième ouvrage. Vous avez pas mal d'ouvrages à votre actif, essentiellement des nouvelles d'ailleurs. Or là, je me suis dit, ah, elle aime bien des choses un petit peu, s'imposer un petit cadre, parce que là, ce sont des lettres. Et c'est très intéressant d'ailleurs, cet échange de lettres. Oui, il y a tout est intéressant là-dedans, parce qu'il y a la construction de votre roman. Allez, je vais vous cuisiner pour savoir comment vous avez procédé.
Vous savez, je viens de la nouvelle, donc c'est tout à fait normal que on trouve beaucoup de nouvelles dans ma bibliographie. Et comment ruser avec le texte long lorsqu'on vient du texte court? Alors, ça a commencé avec Zéro le monde, qui était un roman jeunesse que j'ai écrit par nouvelle, les mêmes personnages, mais chaque chapitre était une histoire. Ensuite, il y a eu Femme vacante, qui était un roman écrit à partir de fragments. Et puis maintenant, c'est Le vase où meurt cette verveine, qui est un échange de lettres et qui est une manière, oui, de composer avec le texte long.
Oui, voilà. Donc, et vous avez besoin d'un cadre assez strict, et ça se comprend en fait, hein, parce que c'est en fait, c'est vrai que c'est une sorte de nouvelle. Chaque lettre, j'ai regardé. Finalement, on apprend chaque fois quelque chose de nouveau. Il y a un aspect, il y a une progression.
Il y a une progression, oui, c'est un véritable roman, oui. Un roman épistolaire,
bien sûr.
Une forme qui a déjà été maintes et maintes fois visitée. Alors, un cadre, peut-être parce que quand je me suis lancée dans l'écriture de ce roman, je ne savais absolument pas ce qu'elle est arrivée à Joseph et Zica. Donc, je me suis jetée à l'eau sans bouée. Et c'est vrai que la structure narrative romanesque, telle que je l'ai conçue, par roman qui appelle toujours une réponse, on attend toujours la réponse de l'autre, on ne l'a pas toujours d'ailleurs, ça m'a permis de suivre cette histoire jusqu'au bout, sans donner d'autres explications que le point de vue des deux narrateurs.
Alors, on part du printemps, et à la fin de l'ouvrage, on revient au printemps, mais là, c'est juste une lettre. Le printemps, un printemps, on ne sait pas lequel, s'annonce. Et donc, quand je dis ça va crescendo, parce que le printemps, on le sait, c'est une période peut-être heureuse, il y a des préparatifs, et puis on va arriver vers l'hiver, qui est la période la moins glorieuse.
C'est le début d'un cycle.
Voilà, c'est le début d'un cycle. Et autre chose aussi qui scande de votre ouvrage, c'est un poème. Oui. Alors, ce poème.
Alors, c'est le poème de Sully Prudhomme, dont le titre est issu, Le vase où meurt cette verveine, d'un coup d'éventail fut fêlé. C'est le vase brisé, donc, de Sully Prudhomme.
Le coup du effleuré, l'effleuré à peine, aucun bruit ne l'a révélé. Alors, on retrouve à d'autres endroits aussi.
Alors, ce poème scande tout le roman, et à chaque chapitre qui commence donc sur une saison, correspond une strophe du poème. Alors, on pourrait penser que j'avais ce poème au préalable et que j'en ai suivi la cadence, mais c'est tout à fait l'inverse qui s'est produit. Lorsqu'il a été le moment de l'envoyer aux éditeurs, je cherchais un titre et je n'en trouvais pas. Et Dieu sait que j'en ai écrit des titres avec des vases et des verveines.
Oui, mais la verveine, vous y teniez, visiblement.
Je tenais à la verveine, voilà. Je tenais à la verveine, je voulais absolument que cela soit dans le titre.
Alors, question bête, pourquoi la verveine?
Parce que c'est une plante qui accompagne Joseph et Zica du début à la fin du roman. Pardon. Pourquoi la verveine? Parce que je suis partie d'un souvenir d'une lettre de Charles Baudelaire qui disait, au milieu de cette lettre où il parlait de tous ses malheurs, il disait « Ma verveine est morte ». Et ça semblait être quelque chose de tragique, et j'ai gardé ça, « Ma verveine est morte ».
Vous avez des belles références littéraires. Alors,
Pour finir, sur le poème. Le poème, je l'ai rencontré après l'écriture du livre, et c'est un poème que je connaissais, que j'ai retrouvé, et j'ai dit mais
qui s'accordait parfaitement
au roman. Et c'était une rencontre qui était tellement belle que voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé le titre.
Voilà. Alors, il y a une composition remarquable parce que effectivement, c'est un échange de lettres. Il y a une progression dans la dramaturgie et il y a une tension qui va crescendo.
Oui.
On se dit, où va-t-elle nous mener ?
C'est ça. Alors, c'est un peu ce que tout le monde me dit. Mais on se demande au début où vous allez nous amener.
Oui, voilà. Alors, il y a une dédicace un petit peu sibylline.
Oui. Pour tous ceux...
Alors, à ceux qui ont été soustraits à mon affection ou qu'ils soient à présent.
Oui, parce que c'est un hommage d'abord aux gens que j'ai perdus, qui sont morts, de mon enfance, des personnes âgées qui ont nourri ce livre de l'expérience de vie que j'ai eue avec eux, en tout cas pour bien connaître qu'est-ce que c'est être âgé, c'est quoi cette vie, c'est pas la vie, moi j'ai pas l'âge de mes personnages. C'était donc déjà un hommage à ces personnes que j'ai aimées et qui ne sont plus là. Et c'était aussi un clin d'œil à des affections que l'on peut nouer à un moment de sa vie et qui ensuite ne se distendent ou parfois disparaissent ou ne disparaissent pas complètement.
C'est la vie.
Voilà.
Alors, il y a plusieurs thèmes qui se trouvent dans votre ouvrage et des thèmes, je dirais pas que c'est pas une confusion de thèmes, parce que finalement, tout s'articule parfaitement, je trouve, des thèmes dont nous allons parler. Mais alors vous, Frédéric Martin, quel thème vous teniez le plus, quel est le thème qui vous le tenait le plus à cœur?
Ben, le thème central, c'est l'amour, hein, de toute façon. C'est un peu le thème de l'amour et comment on ne peut pas le vivre, comment on ne peut pas le recevoir, comment on ne peut pas le donner, il ne trouve pas facilement sa place dans nos vies. Ça, c'est un peu le thème central qui est récurrent de mes livres. Mais le point de départ de ce roman, c'est une chanson de Maxime Le Forestier, Les Lettres, un échange épistolaire entre un homme et sa femme qui sont séparés par la guerre de 14-18. Et c'est une chanson vraiment que j'ai trouvée poignante et qui m'a donné envie d'écrire ce roman en partant d'un thème que je portais déjà en moi, qui était la séparation.
Alors, c'est un thème que je qualifierais, moi, de très original actuellement, parce que finalement, le thème, l'amour conjugal qui perdure, qui, on en voit guère, hein, on en voit guère dans la littérature, en tout cas.
Par lettre, avec des vieux, enfin vraiment,
oui,
que des handicaps pour démarrer.
Parce que, bon, ils ont 77 ans dans ces eaux-là, oui. Ils sont mariés depuis presque 60 ans, et c'est un amour conjugal total, fusionnel même, une passion, une vraie... dans le fond, c'est vrai que c'est assez rare, parce que c'est une passion dans tous les sens du terme, alors qu'on attend de la tendresse, la complicité, l'estime aussi, qui prennent le relais souvent. Là, c'est une vraie passion.
Ils ont bien sûr tous ces éléments, tendresse, estime, ils l'ont, humour aussi entre eux, mais ils sont passionnés, ils ont un amour passionné, charnel.
Alors, vous savez, Frédéric Martin, que je me suis interrogée, parce que je me suis dit, mais dans le fond, cet amour qu'on trouve admirable, on se dit bon, c'est merveilleux d'arriver à cet âge-là et d'avoir ces sentiments si forts. En même temps, je me suis dit mais ça les coupe peut-être un petit peu du monde, peut-être que en fait ça a été leur refuge, ils se suffisent à eux-mêmes.
C'est leur vase.
Oui, le vase.
Ils sont
dans
ce vase-là, ils sont dans cette relation unique et très forte. En même temps, eux, ils ont l'impression, et ils aiment leurs enfants, ils s'en sont occupés, ils ne les ont pas délaissés. Mais c'est vrai qu'ils ont une relation tellement particulière que peut-être, on peut penser qu'Isabelle, notamment, leur fille, n'a pas su trouver sa place entre ces deux-là. En plus, c'était l'aînée. Elle est arrivée tardivement dans leur couple. Le couple était très installé déjà dans sa vie amoureuse. On peut penser qu'elle n'a pas su trouver sa place ou qu'elle n'a pas reçu ce qu'elle attendait. Tandis que son frère Gauthier a moins souffert, je pense, de la relation. On ne le sent pas... pour moi, il n'est pas atteint ou il n'a pas souffert de cette relation. C'est surtout Isabelle qui en a souffert. Et oui, ils sont un peu l'un sur l'autre.
Oui, parce que je me suis dit, dans le fond, ça pourrait irradier leur entourage. Et en fait, je me demande si ça les enferme pas. Non, alors, je vais vous dire, je vous demande pas de réponse, parce que dans le fond, le livre ne vous appartient plus.
Non, c'est ça.
Mais c'est vrai qu'après, on peut s'interroger, et d'ailleurs, à bien des égards, dans votre ouvrage, on peut s'interroger aussi, parce qu'on se dit, mais dans le fond, cette relation aussi étroite, elle a tendance à exclure tous les autres, à commencer par leurs enfants.
D'une certaine manière, oui. Je pense que les enfants sont ceux qui ont été les plus proches d'eux, mais on n'entend pas parler de leurs amis.
Non.
Ils n'évoquent pas, ils évoquent des souvenirs très anciens du début de leur relation, mais hormis leur famille proche, ils ne semblent pas avoir besoin de rencontrer d'autres personnes.
Oui,
donc ils vivent vraiment, ils se nourrissent l'un de l'autre.
Voilà, alors donc on se dit, ils sont ensemble, et on se dit, voilà, ils vont être séparés, on va en parler de cela, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Donc ce sont des personnes qui ont déjà, qui atteignent un grand âge. Et ce que l'on voit dans chez eux, c'est, et que vous décrivez très bien, c'est ces habitudes, cette vie douillette, ces repères qu'ils ont, l'amour de la nature. Alors j'aurais aimé retrouver le texte, parce que là j'ai peut-être quelque chose là-dessus. Sur l'amour de la nature, ce qu'ils observaient, parce qu'ils étaient dans une propriété où il y avait des arbres fruitiers, il y avait des fleurs, il y avait des légumes.
Un jardin potager.
Un jardin potager, et tout ça, c'est, ça faisait leur bonheur. Et cette vie lente qui nous fait du bien, dans le fond, hein, à voir, cette vie lente qu'ils partagent tous les deux avec cet amour de la nature, cette proximité.
Ils vivent au fil des saisons, et ils vivent au fil de comment la terre se comporte quand c'est le moment des fruits, quand c'est le moment du repos, quand c'est Joseph a un amour immense pour les arbres. Ce sont des gens qui ont toujours vécu à la campagne. Lui, il a travaillé comme ouvrier agricole. Ils ne connaissent pas d'autre vie que celle-là, et ce sont vraiment des gens tels qu'on peut encore en trouver dans les campagnes d'aujourd'hui, des gens qui ont toujours vécu en accord avec la nature et qui ne connaissent rien d'autre.
Et proches de la nature.
Et proches d'elle, et qui la connaissent et la respectent.
Oui, oui. Alors, ils ont quand même un caractère bien trempé l'un et l'autre, et je pense qu'avec l'âge, ça ne s'arrange pas.
Il semblerait qu'effectivement, on s'affermisse.
Et oui, parce que il me semble que, bon, ils ne sont pas forcément bienveillants. Et évidemment, je pense à leurs enfants. Et je trouve quand même que dès le départ, les propos de Zika à l'égard de sa fille sont souvent très durs.
Ben,
ça m'a.
Il souffre d'abord énormément de la décision qui est prise et qui pour eux est une véritable catastrophe.
Alors disons, parlons de cette décision. En fait,
Zika est malade. Elle fait un très grave accident.
Un problème cardiaque.
Elle a un très grave problème cardiaque. Donc elle fait un malaise très violent qui effraie tellement Joseph qu'il ne se sent plus capable de gérer la situation. Donc les enfants, de par leur situation géographique, un est dans le sud-ouest de la France, l'autre est à Paris, prennent chacun un des parents. La fille monte, donc va à Paris se faire soigner. Elle habite chez sa fille qui loge dans un tout petit appartement et qui n'a guère envie de recevoir les deux parents en même temps.
Oui, parce que les deux ménages, les personnes n'ont pas énormément d'argent. Hein,
non, ce sont dans un milieu très modeste.
Tout à fait, oui.
Le fils, lui, habite dans le sud-ouest, il recueille son père. Mais au départ, on est sur une séparation qui va être temporaire. On va trouver le traitement de Zika, puis ensuite elle rejoindra son mari. Sauf qu'au fur et à mesure, c'est pas ainsi que l'histoire va se tricoter.
Voilà, on va faire une petite pause. Si on trouvait une chanson concernant la nature, ça serait merveilleux. On va voir ça.
D'accord.
Frédéric Martin, nous reprenons tout de suite après.
Les petits gestes attendrissants qui vous ouvrent le cœur en grand et vous sortent du désespoir, les jours où le ciel est trop noir, les petits gestes dérisoires, un sourire, un simple regard, mais qui repeignent la journée aux couleurs de votre amitié. Je les ai reçus en plein cœur, aux petits mots semés de fleurs, que je gardais comme un trésor, aujourd'hui je les goûte encore. Aux petits gestes délicats, caressait du bout des doigts sur les plaies qui faisaient si mal, c'était du miel et du santal. Ces petits riens n'ont pas de prix. Ils se posent comme un répit, un petit air de délivrance, la musique au bout du silence. Et si toujours je m'en souviens, c'est qu'au plus lourd de mon chemin, ils étaient là comme un repère, une étoile sur le désert. Ces regards si émouvants, ces gestes tendres et apaisants, retournaient l'âme à l'envers. Et quand le ciel s'est fait plus clair, ces petits instants dérisoires, toujours gravés dans ma mémoire, avaient la couleur de l'oubli, de l'arc-en-ciel après la pluie. Et dans ces gestes sans histoire, que rien n'avait laissé prévoir, j'ai puisé la force d'ouvrir ma fenêtre vers l'avenir.
Parole d'auteur Monique Fauché.
Voilà, nous retrouvons Frédéric Martin et qui vient nous parler de son roman, un roman épistolaire, intitulé « Le vase où meurt cette verveine ». Alors, évidemment, déjà dans le titre, quand même, il y a l'idée de mort. Et effectivement, hors antenne, nous disions que finalement, cette verveine, c'est ce couple qui dépérit à partir du moment où on les transplante ailleurs. Vous avez évoqué, avant notre pause musicale, vous avez évoqué le lieu où ils travaillaient, mm-hmm. où ils habitaient. Oui. Et puis là, donc, ils sont obligés et de quitter le lieu où ils ont vécu si longtemps.
Toute leur vie, mais qu'ils n'ont pas été en mesure d'acheter parce que c'était des gens trop modestes. Mais c'était quand même leur maison, et même si elle ne leur appartenait pas, Zika va se retrouver en ville à Paris, et quant à Joseph, il va se retrouver dans un petit village, certes, mais dans un lotissement, donc qui n'a plus rien à voir avec la vie de campagne telle qu'il pouvait la connaître. Donc déjà, ils sont coupés de leurs racines, effectivement, de quelque chose qui est vital pour eux de vivre.
Et à partir du moment où, ce que vous dites, coupés de leurs racines, effectivement, toutes les questions liées au grand âge vont se poser. Le sentiment que, finalement, jusqu'à présent, c'était des problèmes qui ne les concernaient pas ou qui ne les effleuraient pas. Mais en fait, vous allez évoquer, à travers leurs lettres, justement, l'idée du vieillissement, de la perte d'autonomie.
C'est ça, du fait que parfois, on n'est plus maître de son destin parce qu'on est âgé, parce qu'on n'est plus autonome, parce qu'on est malade, parce qu'on n'a pas de moyens, pour des raisons diverses et variées. On a quand même ce problème qui est récurrent de gens qui ne sont plus maîtres de leur destin, de leur vie, et qui dépérissent de fait, et qui dépérissent parce que vivre jusqu'au bout, c'est avoir des projets jusqu'au bout, aussi infimes soient-ils, et c'est garder un peu de maîtrise sur ce qu'il advient de nous. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est vraiment tragique, voir des personnes dans des maisons de retraite qui sont là contre leur gré, qui sont abandonnées dans leur fauteuil, je trouve ça mais vraiment tragique, ça me peine énormément.
Voilà, alors donc,
je voulais le faire vivre de l'intérieur.
Alors effectivement, et c'est vrai qu'ils sont confrontés à un problème que l'on connaît tous. Que faire? Parce que votre personnage masculin, Joseph, donc, qui a 77 ans, dit bien que chez son fils, dans le fond, il se sent un intrus.
Il dit qu'il n'est pas facile de trouver sa place dans la maison des autres.
Voilà. La maison de retraite, il la refuse. Ils ne peuvent plus rester chez eux. Et on se dit, bon, alors?
Oui, ils sont dans une impasse. Hein. L'autre jour, l'auteur Dominique Poudou a dit « Votre livre, c'est une montée en impuissance. » Et c'est exactement ça, je ne l'avais pas formulé de cette manière-là, mais c'est exactement ça. C'est une situation dans laquelle ils se sentent impuissants et contre laquelle ils se révoltent, avec toutes les répercussions que cela va avoir. Et le fait qu'ils soient séparés est occasion, notamment pour Isabelle, d'entreprendre sa mère sur tout ce qu'elle n'a pas pu lui dire, sur des rancœurs qu'elle ressasse, parce que Isabelle, c'est une femme qui ne s'est jamais mariée, qui vit seule, qui manifestement n'a pas une vie très joyeuse.
Qui s'est aigrie.
Qui s'est aigrie, oui. Et en tout cas, on le voit bien au fur et à mesure de la montée du drame, on voit bien qu'elle tourne en rond dans sa tête et qu'elle rabâche, elle ressasse, et qu'elle n'a pas su trouver ce qu'elle pouvait faire de ce qu'on avait fait d'elle. C'est-à-dire, oui, il y a notre histoire, il y a notre histoire personnelle, on en a tous une, mais on peut aussi s'en extraire, on peut aussi s'appuyer sur elle pour devenir quelqu'un. On n'est pas obligé de rester soumis à cette histoire-là. Et Isabelle, elle, elle est restée soumise à cette histoire, elle est restée dans sa rancœur, elle est très jalouse de son frère. Et elle est jalouse aussi de sa mère.
Oui, oui, oui. Mais est-ce que vous ne croyez pas que justement sa mère, forte de l'amour immense que lui portait son mari, l'a vue comme une rivale aussi peut-être et l'a exclue, non ?
Non.
Bon, on a cette impression un petit peu. En tout cas, cette idée justement de déracinement, le fait de devoir tout quitter, de ne plus rien maîtriser, je me suis interrogée parce que finalement, qu'est-ce qui leur manquerait ? Est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, une idée de lâcher un peu prise et de se tourner vers d'autres valeurs ? C'est vrai qu'on est, on n'est pas autonome, on perd l'autonomie, mais il y a peut-être autre chose encore, non ?
Je pense qu'ils auraient pu trouver d'autres choses s'ils étaient restés ensemble. C'est la séparation.
Oui, il y a eu tout à la fois. Oui.
C'est ça qui... on les aurait transplantés ensemble ailleurs. Ils auraient trouvé le moyen de continuer leur vie de cette manière-là. Tant qu'ils sont ensemble, ils étaient invulnérables. Et dès lors qu'on les a séparés, c'est ça qui prend toute la place pour eux. C'est plus grave que tout le reste. Et ils ne s'en rendent compte qu'au fur et à mesure du temps qui passe.
Vous savez que j'ai pensé au film d'Hitchcock, Les oiseaux.
Ah bon ?
Oui, parce que en fait, toutes les catastrophes viennent du fait qu'on sépare deux oiseaux dits inséparables.
Oui, oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Ah, j'y avais pas pensé, mais oui.
Et tout, voilà, voilà. Vous auriez peut-être aussi pu appeler votre roman
Les Inséparables.
Oui, alors les caractères des personnages, bon, on voit à travers leurs écrits parce qu'ils portent des jugements. Alors je me dis, personne n'est parfait, c'est vrai.
Ah ben
mais
non.
C'est très bien parce que en vous lisant, on se dit ben voilà, il faudrait pas que je dise ça, que je fasse ça. En particulier cette psychorigidité et que l'on retrouve en chacun de nous, hein, porter des jugements, par exemple sur la manière de vivre des enfants.
Oui, souvent les parents peuvent avoir cette tentation de rêver la vie de leurs enfants et de ne jamais être satisfaits de la manière dont ils...
Oui, parce qu'ils souhaitent que les enfants vivent comme eux ont vécu aussi.
Ou en tout cas, peut-être pas comme eux ont vécu, mais ils peuvent souhaiter que... Il leur semblerait que leurs enfants seraient heureux s'ils vivaient de telle manière, alors que c'est cette manière-là, c'est à eux qu'elle s'adresse, et c'est eux qu'elle rendrait heureux. Donc effectivement, en tant que parent, il y a ce questionnement à avoir, de dire... Quelle que soit la vie que mes enfants choisissent, et si c'est un véritable choix, je dois le respecter, parce que c'est de leur vie qu'il s'agit, c'est pas de la mienne. Moi, ça ne me correspond pas, mais eux.
Oui, oui, oui. Mais d'où la difficulté de vivre ensemble, de mettre ces deux générations ensemble.
Oui, c'est une vraie difficulté, mais moi, je n'ai pas de solution. Je pense que les solutions sont individuelles et dépendent de chaque situation familiale. Malgré tout, on peut s'interroger sur... comment ce serait possible d'aménager l'espace ou comment c'est possible de continuer à vivre ensemble. On n'est pas obligé non plus de séparer toutes les générations. Autrefois, ça se faisait, peut-être pas toujours très joyeusement
oui,
d'ailleurs.
Oui.
Mais on doit pouvoir...
N'idéalisons pas le passé.
Non plus, d'autant pas du tout. Mais on doit pouvoir trouver des solutions quand même. Mmh. On doit pouvoir trouver des solutions...
Alors, ce que vous notez très bien dans les personnages des enfants, des petits-enfants, c'est justement cette complicité, cette plus grande facilité de relation entre grands-parents et petits-enfants.
Oui, parce que on peut avoir été des parents défaillants ou médiocres et devenir d'excellents grands-parents. Ce ne sont pas les mêmes enjeux qui sont en cause. Donc... Joseph qui a la chance de vivre chez Gauthier avec ses petits-enfants, nous une relation très forte avec Thomas et avec Rosalia. Et eux, dans leur fraîcheur, enfin Thomas est un jeune adolescent, mais Rosalia qui est une petite fille de 6 ans, s'accorde complètement avec son grand-père qui prend le temps de lui apprendre à lire, à écrire, à lui faire la leçon à l'ancienne, hein, ce qui ne manque pas de mettre leur mère dans tous ses états.
Alors, vous pointez dans les propos, dans les écrits de ces deux personnages, puisqu'il s'agit des écrits de Joseph, qui écrit à sa femme, et de Zika, qui répond à son mari. Vous, vraiment, avec beaucoup de subtilité, vous montrez, et surtout Joseph finalement qui critique, qui est un vieux ronchon, hein, faut reconnaître, mais en même temps quand même qui essaie de réfléchir, de se remettre en question lui-même. Et par exemple, ce que on se dit, c'est que la perte d'autorité également, parce qu'en définitive, on se met sous l'autorité de celui qui nous reçoit, d'une certaine manière, et ce renversement de situation qui est inéluctable, on s'en rend compte, et qui doit être parfois lourd, un peu. Ça doit être difficile.
Ne plus être chez soi, chez soi au sens où être maître chez soi, oui, je pense que c'est quelque chose de difficile à vivre. Je ne l'imagine pas pour moi-même. Cela m'est difficile d'imaginer qu'un jour je puisse vivre dans une maison où je ne pourrais plus décider de ces gestes quotidiens qui nous paraissent sans importance, mais qui prennent toute leur force dès lors qu'on en est privé.
Mais vous, Frédéric Martin, vous donnera un papier, un crayon, vous serez heureuse.
C'est vrai, c'est bien possible. C'est bien possible que si j'y vois suffisamment et si mes mains me le permettent, que je puisse vivre un peu partout comme si j'étais chez moi.
Alors justement, nous parlerons de cela aussi, et si vous voulez bien, nous allons écouter un petit peu de musique.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps tu verras, je serai de retour. Le printemps c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir paru si beau en cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas, et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que j'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas que tu dois revenir, je ferai de nous deux le plus beau souvenir. Je reprendrai la route, le monde, mes merveilles. J'irai me réchauffer à un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marins. Dis, quand reviendras-tu?
Parole d'auteur Monique Fauché.
Voilà, avec Frédéric Martin, dans le nouveau roman Le vase où meurt cette verveine, nous parle de problèmes très actuels, pas seulement la vieillesse, parce qu'on sait très bien que la population vieillit et que nous serons, du moins on l'espère, confrontés à ce grand âge. Avec Frédéric Martin, donc, nous évoquions le fait de la perte de pouvoir sur sa vie personnelle, c'est-à-dire que que ce soit dans une maison de retraite ou chez ses enfants, on n'a plus du tout d'autorité dans ses choix. Voilà. Le champ se rétrécit. Et je me suis dit, mais est-ce si important ces détails-là, quotidiens? Est-ce que vraiment vous pensez que c'est ça le plus important?
Je ne sais pas si c'est le plus important pour tout le monde, c'est le plus important pour mes personnages, et il me semble que c'est important pour beaucoup de personnes. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il me semble qu'on mesure cette importance au moment où on en est privé. C'est à ce moment-là qu'on mesure que nous faisons tous les jours des gestes qui nous semblent sans intérêt ou sans importance, mais nous les faisons librement. Et c'est cette liberté d'action, cette liberté de choisir, ce soir je fais ceci, je ne ferme pas les volets, ou je vais cuisiner tel plat, ou je sors, tiens, j'ai envie de sortir, sans être assujetti à un rythme qui n'est pas le nôtre.
Alors vous savez, Hermann Hesse a écrit « Éloge de la vieillesse ».
Ah, oui.
Et vous l'avez, vous,
dit,
et dans lequel il dit, mais finalement, la vieillesse, on a appris tellement de choses, continuer à observer, à établir des relations entre les choses, s'expliquer, pouvoir s'expliquer avec les tenants, les aboutissants, c'est un plus. Alors, est-ce que vos deux personnages, finalement, je reviens au départ, un petit peu, ne sont pas restés trop enfermés sur eux-mêmes pour voir les autres, comprendre les autres et accepter les autres?
Il se pose quand même des questions tout au long du roman.
Joseph, hein, c'est vrai.
Il s'interroge, oui, Joseph davantage que Zika peut-être. Il s'interroge tout au long du roman. Mais ce que vous évoquez, la capacité à se poser des questions, à faire des liens et à continuer de se nourrir de ce qu'on observe et de grâce à notre expérience, je ne suis pas sûre que ce soit donné non plus à tout le monde. Je ne suis pas sûre que parce qu'on arrive dans le grand âge, on arrive aussi forcément dans la sagesse. L'expérience nous montre que ce n'est pas toujours le cas.
Alors voilà, peut-être c'est ce à quoi il faut s'employer, peut-être. Préparer sa vieillesse.
Voilà, c'est peut-être ça, mais ça veut dire habiter sa vie de maintenant.
Ouais,
ça veut dire
exactement.
S'occuper de soi et être soi, entièrement soi, maintenant. Après, si on a passé sa vie à côté de soi, eh bien, c'est plus difficile quand on est âgé. Ce n'est pas impossible, mais c'est plus difficile.
Oui, je crois aussi. Alors, là, par exemple, j'avais noté cette étrange froideur de Zika à l'égard de sa fille. Et pourtant, il y a des moments où il y a une rencontre. Alors, peut-être que vous pourriez nous lire ce passage. Voilà, elle, d'ailleurs, oui, sa fille donc dit, mais si une mère ne veut pas entendre le chagrin de sa fille, qui le pourra ? Parce qu'effectivement, moi je comprends la fille. Je sais que vous allez défendre la mère, là.
Non, je ne vais pas défendre la mère, moi je comprends la fille aussi.
Oui,
c'est pour ça qu'il y a toute une famille, hein. C'est parce les mêmes événements ne sont pas perçus de la même manière suivant
tout
qui les regarde.
Voilà, et comment peut-on ne pas se remettre en question devant tant de douleurs ? C'est ça qui je me dis, mais je crois que on
mais parce
peut...
que parce qu'Isabelle n'a pas forcément manifesté sa douleur de cette manière-là avant de se retrouver en tête-à-tête avec sa mère. Elle aura manifesté de la colère, de la jalousie, beaucoup de choses, mais elle n'aura pas manifesté son chagrin comme elle le manifeste à ce moment-là.
D'accord.
Alors vous voulez que je lise à partir de sur ces mots ?
Oui.
Donc sur ces mots, elle a éclaté en sanglots. Je l'ai consolé au mieux, cela m'a paru moins pénible que la dernière fois. Il faut croire que je m'améliore. Je l'ai cajolé, je t'aime ma petite, avec pour résultat d'aggraver ses larmes. Alors je me suis tue, je lui ai tenu la main jusqu'à ce qu'elle finisse par s'apaiser. Elle n'est pas méchante au fond, elle a aussi ses bons côtés, juste exténuante à toujours tout compliquer. Et si elle est seule, c'est en partie à cause de cette tourmente des sentiments dans laquelle elle tient son entourage. Si on m'avait dit que j'allais reprendre du service sur le tard, pour des enfants de 44 et 46 ans, on pouvait espérer que le maternage était terminé. C'est légitime, non ? Et voilà qu'ils entrent en crise comme d'autres en religion, au moment précis où nous avons besoin d'eux. Peut-être que dans cette période où les rôles s'inversent, ils éprouvent le besoin de retrouver leurs parents tels qu'ils les ont toujours connus. J'ai pensé qu'ils se rendaient compte de notre soudaine fragilité, de cette dépendance qui s'impose à pas feutrés, une perte après l'autre, et que leur nouvelle responsabilité les effrayait autant qu'elle les bouleversait. Pauvre petit.
Voilà, alors voyez, ça me réconcilie avec ce personnage, parce qu'on voit quand même que... Et on comprend qu'en effet, il y a une fatigue... d'être confrontés à des problèmes qui ne sont pas les leurs, qui sont les problèmes de leurs enfants. Et là, ce que vous faites entrer aussi, c'est des problèmes très actuels. Divorce, séparation, bon, la difficulté de vivre de leur fille qui est plus ou moins au chômage.
Hein, oui, qui travaille par intermittence.
Qui travaille par intermittence. Bon, une vie un petit peu décousue, chaotique.
Oui, chaotique, comme on peut en connaître beaucoup aujourd'hui.
Oui, voilà. Alors donc, et là, elle pointe bien du doigt, Zika, que dans le fond, elle est fatiguée.
Oui, je pense qu'à 77 ans, c'est son âge, elle n'a plus l'énergie de faire face à un chagrin de petite fille, parce que c'est un chagrin de petite fille que Isabelle couve en elle-même. C'est un chagrin de petite fille, ce n'est pas un chagrin d'adulte. Elle n'a pas du tout transformé cette douleur en quoi que ce soit. Elle l'a figée, elle aussi, peut-être parce que elle était sur un modèle de vase. Peut-être elle a pris ça de ses parents, de vivre sur un vase clos où elle était seule à l'intérieur avec son chagrin.
Alors justement, là, vous me tendez la perche parce qu'on peut parler de la communication, du problème de communication. Alors, dans les familles, bon, et puis un petit peu partout maintenant, évidemment, hein, il y a les SMS, il y a tout ça, mais ça, à mon avis, ça ne suffit pas. Et là, il y a un problème de communication dans la famille, c'est très net.
Eh bien, j'ai envie de dire que ce n'est pas se parler beaucoup qui compte, c'est se parler vrai. Et c'est le plus difficile, autant pour celui qui prend la parole que pour celui qui doit l'entendre. Le problème de la communication, c'est accepter que l'autre vous dise quelque chose qui est de l'ordre de sa vérité, même si elle vient frontalement vous atteindre, parce que ce n'est pas ainsi que vous l'avez vécu, ou que ce n'est pas votre point de vue, ou que ce n'est pas votre vérité. La vérité, c'est subjectif. Et donc, quand on s'adresse à l'autre, eh bien, quand on entend l'autre, il y a une grande différence entre l'intention et la réalité de ce qui est reçu.
Voilà, alors c'est ce que vous avez compris, Frédéric Martin, mais je dirais que peut-être que Zika et Joseph vont le comprendre maintenant d'une manière terrible.
Oui.
D'une manière terrible.
Il leur a fallu aller très loin pour qu'ils le comprennent.
Mais on va racheter un pied de verveine.
Oui.
Voilà.
Oui.
Alors, quand vous avez terminé ce livre, vous étiez comment ?
J'avais des larmes aux yeux quand j'ai terminé ce livre. Voilà, la dernière phrase de Joseph... C'est une phrase qui m'a très longtemps mis les larmes aux yeux. D'abord parce qu'il fallait que je les quitte et que je ne sais pas ce qu'il va advenir de, de Joseph Hezika. J'ai mon propre imaginaire, mais chacun, voilà, comme vous l'avez dit, le livre ne m'appartient pas, donc chacun va imaginer ce qu'il advienne de Joseph Hezika après, après cette, cette épreuve qu'ils ont traversée, et de leur amour aussi. Et voilà, j'étais dans cette émotion-là, et un attachement très profond à chacun des personnages, parce que bien sûr ils sont au centre et j'ai un attachement particulier pour eux, mais Joël, Gauthier, Isabelle et les petits-enfants font partie de la famille pour moi, donc beaucoup de mal encore aujourd'hui à me séparer d'eux, d'autant que le livre...
Et même en parler, là.
Oui.
On le sent.
Oui. Et d'autant que le livre vient de sortir, que j'ai signé mon contrat il y a plus d'un an, donc c'est comme si cette famille ne voulait pas me quitter, ou que je ne pouvais pas la quitter, je ne sais pas.
Enfin, voilà. En tout cas, ce sont des questions que vous posez, que vous nous posez, et oui. qu'il est bon de poser, bon, à travers la littérature. Je dis bien, c'est pas un livre de sociologie.
Ah non, c'est une vraie fiction.
C'est un roman, mais avec de vraies questions également, et de vrais personnages, et Frédéric Martin, en tout cas, merci de l'avoir écrit.
Merci à vous, Monique.
Alors, je rappelle le titre, Le vase où meurt cette verveine, et c'est édité chez Belfond. Au revoir.
Au revoir.